VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Mercredi 8 février 2017, il est 18h30 en temps universel, 23h30 à Bamako, au Mali. Anastasie Tudiech avec vous. Les titres ce soir: enlèvement d'une religieuse colombienne dans le sud du Mali. Il s'agit d'une première dans cette partie du pays. La Somalie a un tout nouveau président, l'ancien Premier ministre Mohamed Abdoulaye Farmajo. L'accord entre le gouvernement d'Union nationale libyen et l'Italie sur l'immigration ne fait pas l'unanimité en Libye. En France, c'est l'indignation après la brutale agression d'un franco-congolais par des policiers. Tout à l'heure, l'économie et le sport, mais d'abord, le journal. Le gouvernement ivoirien a condamné la mutinerie des militaires des forces spéciales basées à Adiaké, où un calme très précaire régnait ce mercredi. L'État indique néanmoins avoir entamé les discussions avec les mutins. Des tirs ont repris aujourd'hui malgré l'annonce du gouvernement. On est toujours sans nouvelles de la religieuse colombienne enlevée dans la région de Sikasso, dans le sud du Mali. L'armée est déployée dans la zone et aucune revendication n'a pour le moment été faite. C'est la première fois qu'un enlèvement survient dans cette région. Correspondance de Kassim Traoré à Bamako.
À la congrégation sœur franciscaine de Karangasso, dans le cercle de Kuchala, les débuts de nuit sont très calmes, mais ce mardi 7 février 2017, tel n'a pas été le cas. La grande quiétude a été perturbée par des invités inattendus qui ont fait irruption à la congrégation. Ces assaillants ont apporté des matériels informatiques, un véhicule de la communauté qu'ils finiront par abandonner au niveau de la voie bitumée. Du coup, ils sont partis avec l'otage sur des motos. L'otage en question n'est autre que la sœur Gloria Agoti. Elle travaillait pour la congrégation des sœurs franciscaines de Karangasso depuis une dizaine d'années. La religieuse colombienne a été enlevée par des hommes armés non identifiés qui ont pris une destination inconnue. Aussitôt, l'armée malienne a été déployée à Karangasso et environnant. Ils ont procédé à des ratissages dans la zone qui est située à 320 km à l'est de Bamako. Karangasso, pour ne pas dire le cercle de Kuchala, fait frontière avec le Burkina Faso. En tout cas, il n'y a aucune revendication suite à cet enlèvement, qui d'ailleurs est la première dans la région de Sikasso. Même si des djihadistes avaient attaqué la localité de Misseni et Fakola en mars 2015 vers la frontière ivoirienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Centrafrique, l'opération menée hier au quartier musulman du PK5 à Bangui a fait 5 morts selon la force onusienne dans le pays. L'opération menée par la police centrafricaine a été appuyée par la MINUSCA, qui précise que le chef d'un groupe d'autodéfense, Youssouf Malinga alias Big Man, a trouvé la mort lors des affrontements. Un pasteur d'une église apostolique du PK5 a été poignardé à mort par les hommes de Big Man en représailles. En Gambie, le nouveau ministre de la Justice a annoncé une révision de la Constitution pour éliminer les lois restrictives sur les médias. Aboubakar Tambadou a précisé que certaines réformes sont des priorités, particulièrement dans le secteur de la justice criminelle et des lois sur les médias. La Gambie, sous l'ex-président Yahya Jammeh, était critiquée pour ses atteintes répétées aux droits humains. Les journalistes étaient régulièrement harcelés et poursuivis en justice. En Somalie, l'ancien Premier ministre Mohamed Abdoulaye Farmajo a été donc élu président. Il a obtenu plus de la moitié des votes des 329 parlementaires. L'actuel président Hassan Sheikh Mohamud a reconnu sa défaite. Jacques Aristide.
Avec 184 voix, Mohamed Abdoulaye Farmajo a obtenu plus de la moitié des votes des 329 parlementaires. Ce résultat ne lui permettait pas d'obtenir la majorité des 2/3 nécessaires pour être proclamé vainqueur dès le deuxième tour du scrutin. Mais le candidat arrivé deuxième, l'actuel président Hassan Sheikh Mohamud, a reconnu sa défaite avant l'organisation d'un troisième et dernier tour. 3 candidats s'affrontaient contre 21 au premier tour ce matin. Le vote était diffusé en direct à la télévision. Sécurité oblige, c'est dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs déposaient leurs bulletins dans des boîtes transparentes. Élection cruciale, elle marque la fin d'un processus maintes fois retardé et entaché de nombreuses accusations de corruption et manipulation. Elle vise à sortir la Somalie du chaos après des années de conflit. Dans la région semi-autonome du Puntland, au nord-est ce matin, au moins 6 personnes ont été tuées lorsque des membres présumés du groupe Al-Shabaab ont attaqué un hôtel.
En Guinée équatoriale, le gouvernement s'est installé hier pour 3 mois à Djibloho, une nouvelle ville en construction au cœur de la forêt équatoriale. Selon les autorités, l'objectif de ce déménagement de l'appareil gouvernemental est de promouvoir l'activité administrative dans la partie continentale du pays. La nouvelle cité doit accueillir le 17 février un sommet ordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Au Zimbabwe, le tribunal d'Harare a ordonné la libération sous caution du pasteur Ivan Mawarire, accusé de tentative de sabotage du gouvernement et arrêté début février après un exil de 6 mois à l'étranger. Au cours de l'audience, le procureur Edmore Nyazamba a dépeint le pasteur comme un terroriste reconnu, enclin à s'échapper en cas de libération sous caution. Mais le juge a rejeté cet argument, le qualifiant de faible. Le Parlement libyen, basé dans l'est du pays, a jugé nul et non avenu un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine signé la semaine dernière par le gouvernement d'Union nationale et l'Italie. Nathalie Barge nous en dit plus.
Le Parlement installé à Tobrouk considère qu'il n'y a aucune obligation morale ou matérielle liée à cet accord, car le gouvernement d'Union et son chef, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, n'ont aucun statut juridique dans l'État libyen. Ce Parlement ne reconnaît pas le gouvernement d'union soutenu par l'ONU, mais appuie son rival basé dans l'Est libyen. M. Sarraj a signé à Rome le 2 février avec son homologue italien Paolo Gentiloni un mémorandum d'accord visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye. Des observateurs et personnalités politiques ont critiqué cet accord, affirmant qu'il prévoyait le refoulement des immigrés vers la Libye, ce que le gouvernement d'Union a toutefois démenti. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée de milliers de migrants depuis la Libye, l'un des pays de passage obligés pour rejoindre l'Europe.
En Tunisie, c'est la controverse. Après la mort d'un nouveau-né et l'interpellation d'un médecin résident, le porte-parole du tribunal de Sousse a indiqué aujourd'hui que le rapport médical avait fait l'objet de modifications. Des médias ont estimé que cette affaire, faisant suite à d'autres cas controversés, venait rappeler le manque de moyens des hôpitaux publics et le risque de voir une partie du corps médical quitter le pays pour exercer dans de meilleures conditions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité en ce mercredi, c'est aussi dans le reste du monde ici. Aux États-Unis, le président Donald Trump qui a dénoncé une justice, selon lui, politisée, alors que le sort de son décret migratoire est entre les mains de 3 magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Monsieur Trump a indiqué avoir écouté hier soir les débats téléphoniques de l'audience judiciaire consacrée à son décret anti-immigration interdisant l'entrée sur le territoire américain à des ressortissants de 7 pays. Majoritairement musulmans. 2 organisations de défense des droits de l'homme ont déposé un recours pour faire annuler la loi sans précédent permettant à Israël de s'approprier des centaines d'hectares de terre en Cisjordanie occupée. Le dépôt de ce recours devant la Cour suprême israélienne marque le début d'une phase capitale pour l'avenir de cette loi qui scandalise les Palestiniens et suscite l'indignation de la communauté internationale. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne franchit aujourd'hui une étape cruciale avec un vote des députés britanniques pour donner le feu vert à la première ministre Theresa May pour activer le processus du Brexit le mois prochain. Les détails avec Tatiana Mosso.
L'adoption définitive du texte ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Mais Theresa May a répété qu'elle déclencherait avant le 31 mars l'article du traité de Lisbonne qui lancera 2 années de négociations de sortie de l'Union européenne. Le gouvernement a aussitôt prévenu qu'un rejet des termes du Brexit par les députés n'empêcherait en aucun cas la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Lors d'un vote purement symbolique à Édimbourg, mardi soir, le Parlement écossais, dominé par les indépendantistes du SNP, a lui voté à une majorité écrasante contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May à lancer le processus du Brexit. Mais ce vote, acquis par 90 voix contre 34, est qualifié la veille comme l'un des plus significatifs dans l'histoire du Parlement écossais depuis la dévolution de 1998, restera sans effet. Autre réaction, celle du PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, qui s'est dit convaincu que d'ici 2 ans, les tenants du Brexit allaient changer d'avis. Selon lui, les partisans du Brexit leur ont menti en disant « on peut quitter le marché unique, rien ne va changer », alors que ça va sacrément changer, selon lui.
Actualité internationale toujours. En Irak, des centaines de partisans de l'influent leader chiite Moqtada Sadr ont manifesté à Bagdad pour réclamer des réformes électorales avant un scrutin provincial prévu en septembre. Les protestataires, qui appellent depuis des mois à de profondes réformes politiques, estiment notamment que la loi électorale en vigueur sert les intérêts des grands partis qu'ils accusent de corruption et de népotisme. L'Europe a besoin d'immigrés pour son économie et ne pourra résoudre la crise migratoire qu'à travers la coopération, sans construire de mur, a souligné la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ce mercredi à La Valette, la capitale de l'île de Malte. De son côté, l'Afrique devrait prendre en compte le coût du trafic d'êtres humains, les pertes en vie humaine, a-t-elle ajouté. Madame Mogherini ouvrait une réunion Europe-Afrique sur la crise migratoire. Et puis, toujours sur le thème des migrants, le gouvernement italien a présenté aujourd'hui un plan pour mieux accueillir les demandeurs d'asile, tout en multipliant les efforts pour stopper les arrivées et expulser les déboutés. Parmi les objectifs, une répartition maximum sur le territoire, avec un objectif de 2,5 demandeurs pour 1000 habitants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Les bonnes récoltes font plonger le cacao. Avec d'excellentes prévisions de production, mais une consommation en berne, leur brun a vu son cours dégringoler de 25%. C'est ce que rapporte Jeune Afrique. Une très mauvaise nouvelle pour les pays producteurs. En 2016, souvenez-vous, le cacao fut l'une des rares matières premières agricoles dont le cours s'était bien maintenu. Le marché pétrolier réagit bien à la réduction de l'offre de la part des principaux producteurs. C'est ce qu'annonce l'OPEP. Deux accords de limitation de l'offre conclus par l'OPEP, l'un en son sein, l'autre avec ses partenaires, dont la Russie, sont entrés en vigueur le 1er janvier. Ces accords portent sur la baisse de l'offre de quelque 1,8 million de barils par jour. À noter que les cours du pétrole poursuivaient leur chute aujourd'hui en Asie, en raison notamment d'une nette hausse estimée des réserves américaines de brut. Et enfin, Nigeria, des compagnies aériennes internationales refusent de desservir l'aéroport de Kaduna. Cela pose problème, puisque le seul aéroport d'Abuja, la capitale, est fermé pour réparation.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
Alors, les Lions indomptables sont encore à l'honneur au Cameroun.
Le président camerounais Paul Biya qui a salué aujourd'hui à Yaoundé le talent des joueurs de l'équipe nationale. On le rappelle, hein, vainqueur dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations. Il les a reçus au palais présidentiel. Après la réception, les Lions indomptables ont effectué une parade triomphale dans les rues de Yaoundé à bord de voitures de police. La foule s'était massée pour acclamer les joueurs menés par leur capitaine Benjamin Moukandjo qui tenait le trophée à la main.
Le Barça, en finale de la Coupe du Roi, c'est en Espagne.
Malmené, le FC Barcelone a profité de l'incroyable maladresse de l'Atlético Madrid. Score final 1 but partout en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le Barça se contente de ce nul, achevé à 9 contre 10 grâce au succès 2 buts à 1 acquis à l'aller. Le Barça défendra donc sa couronne fin mai en finale de la compétition. Le club catalan est à la fois le double tenant du titre et l'équipe la plus titrée, 28 Coupes du Roi remportées. Ce sera néanmoins sans l'avant-centre Luis Suarez qui a été exclu hier lors de la demi-finale. Le FC Barcelone qui défiera donc fin mai le vainqueur de l'autre demi-finale retour. Elle aura lieu ce soir entre Alaves et le Celta Vigo.
Et puis, nouveau record du monde pour Genzebe Dibaba sur 2000 mètres en salle.
Oui, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba qui a amélioré le record du monde du 2000 mètres en salle. Le temps, 5 minutes, 23 secondes et 75 centièmes. Et ce, alors qu'elle fête son 26e anniversaire aujourd'hui. Elle porte à 6 sa collection de marques planétaires indoor, la vice-championne olympique du 1500 mètres à Rio, distance dont elle détient également le record du monde en plein air en 3 minutes, 50 secondes et 7 centièmes.
Et un mot de NBA, le championnat de basket nord-américain.
CJ McCollum a sauvé Portland à la dernière seconde, victoire 114-113 face à Dallas. Tandis que Charlotte a enfin renoué avec la victoire contre Brooklyn 111-107. Houston a facilement disposé d'Orlando 128-104 avec un bon James Harden, 25 points, 6 rebonds, 13 passes décisives. Houston qui reste solidement accroché à la troisième place de la conférence Ouest.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Aux États-Unis, alors que le débat sur le décret de Donald Trump interdisant l'entrée du territoire américain aux ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans fait rage, deux sénateurs républicains souhaitent limiter l'immigration légale. Le texte déposé hier veut notamment durcir les conditions de regroupement familial, d'attribution de cartes vertes pour résidence permanente, ainsi que la suppression de la loterie. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à New York un militant pour les droits des immigrés. Il s'appelle Bakary Tandja. On l'écoute.
Cette loi, elle est tellement utopique et irréalistique. Bon, je ne pense même pas qu'elle aura en tout cas la chance de voir le jour. Il y aura une mobilisation massive et active pour arrêter et stopper totalement l'avancée de cette loi. Parce que ça va affecter énormément de gens, d'immigrants, des citoyens. Il y a beaucoup de familles qui sont des familles hybrides. Certains membres de la famille sont, par exemple, citoyens. D'autres ne le sont pas.
Vous parlez de mobilisation, mais les Républicains détiennent la majorité dans les deux chambres pour faire passer toute loi qu'ils veulent.
C'est vrai qu'ils ont, ils ont la majorité, ça c'est vrai. Mais le problème est que cette loi va affecter aussi bien les Républicains que les démocrates. Tout ce qui va fondamentalement mettre en cause l'Amérique, ce que l'Amérique représente, en tout cas tout ce qui tient réellement à protéger l'intérêt national américain, je peux présumer que des sénateurs bien connus, même au niveau international, comme John McCain, ne vont pas soutenir une proposition de loi pareille, qui va en tout cas apporter des modifications fondamentales, qui va mettre en cause même les fondements de ce que constituent les États-Unis. La suppression de la loterie Green Card va particulièrement nous affecter. Chaque année, le gouvernement américain sélectionne des candidats et la majeure partie de ceux qui gagnent cette loterie sont des Africains. La majorité, ces dernières années, la majorité des Africains qui sont venus ici avec le statut d'immigrant sont venus à travers ce canal.
Mais la politique d'immigration ici aux États-Unis connaît beaucoup de dysfonctionnements, mais c'est dans leur droit de réguler.
Personne n'est contre la régularisation et la réglementation. Quand on vit dans une société, qu'on soit légal ou illégal, qu'on soit citoyen ou non-citoyen, personne ne veut vivre dans une société chaotique. Donc la réglementation, si elle se fait de façon juste et humaine, elle va profiter à tout le monde. Et c'est ce que nous demandons. Personne n'est contre la réforme de l'immigration. Personne n'est contre les mesures qui permettent de protéger les frontières américaines. Bon, nous demandons tout simplement que ça se passe d'une manière juste et humaine.
Bakary Tandja à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, au sud Kivu, dans l'est du pays, un naufrage sur le lac Tanganyika a fait au moins 5 morts et 43 rescapés. L'incident est intervenu en territoire de Fizi, où les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres passagers portés disparus. Des précisions avec notre correspondant dans la région, Ernest Mouero.
C'est une embarcation en bois dénommée Bafana Bafana qui s'est disloquée en pleine navigation la journée 17 février sur le lac Tanganyika après s'être heurtée à un rocher vers 15h heure locale. Selon certains rescapés contactés, l'embarcation venait de l'île de Moyenga, non loin de la presqu'île de Bouari, à destination de la cité de Baraka, pour que les passagers écoulent leurs marchandises et produits des champs au grand marché de Baraka. Selon les ministres provinciaux en charge du transport au sud Kivu, Mme Agnès Sadiki, les bilans provisoires ce 8 février fait état de 5 corps sans vie repêchés et les 43 rescapés dans un mouvement de solidarité collective. Agnès Sadiki.
Les enquêtes continuent pour savoir exactement combien de personnes étaient à bord. Les rapports préliminaires nous renseignent que l'embarcation s'est heurtée à un obstacle solide jusqu'à causer même des dégâts très énormes. Et donc le gouvernement provincial du Sud-Kivu déplore déjà cette perte-là en vie humaine. Une femme, un homme adulte et 3 enfants. Ceux qui portaient les gilets ont pu voler au rescousse, au secours des autres. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu continue à revenir sur des mesures de protection que nous ne cessons de rappeler à tous les personnels lacustres de pouvoir protéger les vies humaines.
Le coordonnateur national de la nouvelle dynamique de la société civile, Jean Chrysostome Kidjana, déplore ce énième cas de naufrage en province du Sud-Kivu.
Nous nous sommes extrêmement consternés. Il ne se passe plus deux ou trois mois sans qu'on enregistre des morts d'hommes dits à des embarcations d'infortune. On laisse partir des embarcations sans qu'il y ait réellement des appréciations techniques, tout simplement au nom de l'argent, parce que ces gens payent leurs taxes, ils payent toutes les formalités requises par les différentes réglementations en vigueur, mais de l'autre côté, aucune mesure de protection des passagers n'est prise.
Kidjana dénonce les conditions de voyage des passagers et interpelle les autorités provinciales et lacustres à être plus exigeantes vis-à-vis des armateurs et autres usagers de la voie lacustre.
La vie des citoyens compte. On doit beaucoup plus voir l'importance de la vie de ces compatriotes qui sont transportés dans des embarcations comme des sacs, qui sont transportés dans des embarcations comme, c'est pas moi, des bêtes, comme des colis qui n'ont aucune valeur. On doit veiller sur tout ça et on doit mettre fin à de telles pratiques et on doit interdire de navigation toutes ces embarcations qui ne remplissent pas les conditions.
La cité de Baraka est située à environ 218 km au sud de la ville de Bukavu. Son grand marché est achalandé deux fois la semaine grâce aux marchandises qui proviennent entre autres de la presqu'île de Boiry et à Mayenga. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, la face cachée de Boko Haram, l'insurrection meurtrière du groupe islamiste, se poursuit du Nigeria au pays voisin. De la secte islamiste non violente à ses débuts, à sa métamorphose en un mouvement violent, quel est l'envers du décor qui forme ses rangs? Comment fonctionne-t-il? En exclusivité, des images obtenues par la VOA. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Tchad, l'actualité reste dominée par la récente sortie du président Idriss Déby Itno, qui le 2 février dernier a clairement indiqué ne pas pouvoir organiser les élections législatives avant 2 ans. Notre correspondant André Kodmajingar a recueilli les réactions de quelques leaders politiques du pays.
Face à la presse nationale et internationale, le président Idriss Déby Itno a confirmé ce qu'il a dit à huis clos aux députés de la majorité présidentielle. Pas d'élections législatives avant 2019, car selon le président Déby, les législatives coûtent beaucoup trop cher. Et c'est pour ne pas mentir au peuple tchadien que je disais que le pays ne pourra pas se permettre ce luxe en cette période de vache maigre, a-t-il déclaré. Réaction de Ngarledi Yurungar, l'opposant historique et député à l'Assemblée nationale.
Ce qui m'écœure, c'est que Déby proroge le mandat des députés, mais n'a jamais daigné proroger son propre mandat. Pourquoi? C'est la même constitution qui a permis la prorogation du mandat des députés. C'est la même constitution qui peut aussi être utilisée pour proroger le mandat de Déby pour éviter des dépenses inutiles. Donc, qu'il s'autoproclame à travers les prorogations, président à vie, parlement à vie, député à vie. Idriss Déby n'a jamais gagné les élections. Donc il ne peut pas organiser une élection législative futile sans qu'il soit sûr de gagner.
Pour le coordonnateur du FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, Mahamat Ahmed Alabo, en prolongeant le mandat des députés à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a porté atteinte à la forme républicaine. Mahamat Ahmed Alabo assimile cet acte à la haute trahison et demande à la haute cour de justice de juger Idriss Déby Itno, tout en sachant que la saisine ne peut être faite que par l'Assemblée nationale à la majorité de 2/3 de ses membres au scrutin secret selon la constitution de la République du Tchad.
Le président de la République non seulement doit protéger la Constitution, mais il est le garant aussi de cette Constitution-là. Et comment il décide de la violer allègrement. Le droit, c'est une question d'interprétation. Et on peut interpréter ça comme un acte de haute trahison. Et donc, la haute cour de justice doit s'auto-saisir de cette question automatiquement et il doit traduire en justice et juger le président.
Ce qui est paradoxal, tous les députés de l'opposition de la 3e législature s'accordent à dire non à la prorogation de leur mandat. Elle est anticonstitutionnelle, disent-ils, mais ils refusent de démissionner collectivement alors que ce geste s'illustrera comme une leçon de démocratie. André Kodmadingar Ndiamena pour VO Afrique.
Votre santé, votre avenir vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. Une édition qui sera consacrée à la santé mentale.
Dans l'opinion, les troubles de santé mentale se résument à la folie, mais nous verrons que ces troubles peuvent être divers.
Pour en parler, nous sommes allés en République démocratique du Congo. Nous avons interrogé le docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse. Elle fera les diagnostics et nous livrera des conseils pratiques.
Deux autres experts seront aussi du rendez-vous. Le docteur Dieudonné Ngalamounoumé du CNPP de Kinshasa nous parlera de la prise en charge des malades. L'autre expert est le docteur Idelphonse Mouteba, directeur du Programme national de santé mentale en RDC.
Votre santé, votre avenir, diffusé tous les samedis à 8h30, temps universel, et rediffusé tous les dimanches et mercredis à la même heure.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En France, de nouveaux incidents ont éclaté la nuit dernière en Seine-Saint-Denis, au nord-est de la région parisienne, à la suite de l'agression sexuelle d'un jeune franco-congolais lors d'une interpellation par la police. Le débat sur les violences policières et le racisme au sein des forces de l'ordre ressurgit après la mort d'Adama Traoré en juillet dernier suite à son interpellation. Claire Morin-Gibourg a joint la réalisatrice et militante des droits de l'homme, Rokaya Diallo, qui revient sur ces événements.
La semaine dernière, jeudi, à Aulnay-sous-Bois, un jeune garçon, Théo, qui n'avait rien à se reprocher, s'est retrouvé dans un processus d'arrestation par la police. Et en fait, il a été avéré assez rapidement qu'il a été victime d'actes de brutalité, de torture, d'un viol qui a été constaté par un médecin. Et en fait, il a été hospitalisé avec une préconisation de 60 jours d'interruption temporaire de travail, ce qui est un nombre de jours très très important. Et ce sont des violences qui sont habituelles, simplement elles ont été filmées cette fois-ci et on fait le tour des réseaux sociaux. Et très rapidement, en fait, l'indignation a gagné les réseaux sociaux.
Est-ce que pour vous, c'est une énième preuve d'un racisme réel au sein de la police française ?
Ce qui est avéré, c'est qu'une étude démontre que lorsqu'on est perçu comme arabe, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlé, donc contrôle d'identité par des policiers que quand on est blanc, et quand on est noir, c'est 6 fois plus de risques. Et souvent, les violences, en fait, interviennent à l'issue d'interactions avec la police, qui sont souvent des contrôles d'identité. On sait à toutes les façons, par le biais des études, que les Arabes, en fait, les personnes d'origine maghrébine, ou vues comme telles, et les Noirs, sont surexposés aux contrôles policiers et donc surexposés aux possibles violences. Donc il y a un biais raciste et racial qui est tout à fait avéré et, à mon sens, qui n'est pas discutable. Ce que l'on constate aussi par ailleurs, ce sont les chiffres d'Amnesty International, c'est que tous les ans, en fait, 15 personnes meurent dans des interactions policières et que la plupart d'entre elles sont des hommes d'origine maghrébine ou noire, jeunes, issus de quartiers populaires. Donc les violences policières sont extrêmement concentrées sur cette catégorie de la population.
Au jour d'aujourd'hui, y aurait-il une action, y aurait-il quelque chose à faire qui puisse faire vraiment bouger les choses ?
Aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui se produit, c'est qu'on a à notre disposition, et c'est le cas aussi aux États-Unis, des réseaux sociaux qui permettent en fait de faire émerger des cas qui sont malheureusement des cas d'une atroce banalité, mais les faire émerger sur les réseaux sociaux et en fait de gagner en fait l'attention d'un plus grand nombre. C'est ce qui s'est passé pour Adama Traoré, par exemple. C'est un jeune homme qui est mort entre les mains de la police. Là, il y a eu un élan qui était vraiment lié à l'appropriation en fait de cette question-là par des militants sur les réseaux sociaux avant de gagner une sphère plus large. Donc aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les gens qui sont impliqués sur le terrain contre les violences policières ne sont plus dépendants des médias et des organisations institutionnelles pour faire entendre leur voix.
Rokaya Diallo, réalisatrice et militante des droits de l'homme. Et Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lionel Gaïma était à la mise en onde, Mr. Cheng à la console, Anastasie Tudiech avec vous. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Belle soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.